Le messager silencieux. Le car s'arrêta sur le bord de la route. Salvatore Piracci ouvrit les yeux, il somnolait depuis longtemps. Tout autour de lui, à perte de vue, n'était que pierrailles et cailloux fissurés de soleil. Pourquoi s'arrêtait-on ici, au milieu de nulle part? Il essaya de comprendre, cherchant du regard une station d'essence, un barrage ou autre chose. Peut-être fallait-il simplement faire reposer le car comme on le fait d'une monture. C'est alors qu'il entendit des voix énervées devant lui. Le chauffeur avait entrepris de passer parmi les passagers. Devant certains, il ne faisait rien. Devant d'autres, étrangement, il se mettait à parler très vite avec énervement. Les intéressés tentaient de se défendre, d'élever la voix, d'argumenter, mais le chauffeur ne les laissait que lorsqu'ils avaient sorti de leur poche un peu d'argent et lui avaient glissé dans la main quelques billets de plus. Le commandant aurait été incapable de dire s'il s'agissait d'un supplément légitime ou d'un racket à peine déguisé. Les passagers ne semblaient pas vraiment se rebeller, mais le pouvaient-ils dans ce car au milieu de nulle part? Le chauffeur progressait, remontant vers l'arrière du car. Lorsqu'il arriva au niveau du commandant, il se mit à parler très vite en lui faisant avec la main le signe de l'argent. Salvatore Piracci leva sur lui des yeux fatigués et ne répondit pas. Le chauffeur haussa alors le ton, répétant sans cesse « Money, money ». Le commandant plongea alors la main dans sa poche et en sortit la liasse entière qu'il fourra dans la main du chauffeur. Étrangement, celui-ci ne sembla pas pleinement satisfait et prit le temps de compter méthodiquement, puis, au lieu de tout prendre, il remit à Salvatore Piracci deux billets froissés comme si le compte juste lui suffisait et que le commandant devait s'acquitter d'un supplément précis, justifié et officiel et non d'un racket arbitraire et spontané. Sans rien comprendre, le commandant remit les billets dans sa poche. « Tout cela est peut-être normal, pensa-t-il. Je n'ai aucune idée d'où est Gardaïa, comment saurais-je le prix que cela coûte ?» Il rumina encore un temps tout cela en se demandant pourquoi le chauffeur ne lui avait pas demandé d'emblée le prix exact du billet, mais, ne trouvant pas de réponse à cette question, il décida de ne plus s'en soucier. Le chauffeur regagna lentement sa place, puis, visiblement satisfait de sa tournée, il fit rugir le moteur et reprit la route. La chaleur cognait avec cruauté sur la tôle du toit. Les corps fondaient, les uns sur les autres. La poussière soulevée par les roues s'engouffrait dans le car par toutes les fenêtres. Cette rudesse poussait les hommes à la somnolence. Salvatore Piracci ferma à nouveau les yeux. Il s'endormit, malgré sa position inconfortable, et les soubresauts du car. Combien de temps était-ce après cette étrange halte? Il sentit d'un coup une main lui secouer l'épaule. Il ouvrit les yeux. Un de ses voisins, un homme assis, le regardait en souriant et lui demandait dans un assez bon anglais « D'où venez-vous ? » Il trouva d'abord étrange qu'on l'extirpe de sa torpeur pour cela. Si cet homme était curieux, il aurait pu attendre qu'il se réveille pour lui poser ses questions. Mais il ne dit rien. Il regarda l'homme. Celui-ci avait l'air sympathique. Le regard sincère de qui cherche à passer le temps en discutant. « Europe, » dit-il. L'homme le regardait avec un sourire admiratif. Plusieurs visages s'étaient tournés vers lui. Il sentit que la conversation allait se répandre comme une maladie tout autour de lui et qu'il ne pouvait plus rien y faire. Le voisin de celui qui avait posé la première question lui demanda alors s'il était vrai qu'il faisait froid là-bas. Et Salvatore Piracci se rendit compte que tous ceux qui avaient entendu la question attendaient la réponse avec impatience. « Trop froid, » répondit-il. Et les hommes se mirent à rire, comme si le commandant avait fait une plaisanterie, exagérant à l'extrême un minuscule défaut de son continent. Salvatore Piracci comprit ce qui allait se passer. Ils ne le laisseraient pas. Ils allaient le bombarder de questions, et toutes auraient le même but, se faire raconter comme la vie est belle là-bas, et comme il doit être doux d'y être né. Tous ces hommes n'étaient pas candidats au voyage, mais tous, en rentrant chez eux, allaient rapporter à leurs amis, leurs proches, leurs cousins, ce que le drôle de blanc du car avait raconté. Et la fièvre se répandrait, levant partout une armée de jeunes gens prêts à tout pour passer. Cette idée lui répugna. Il repensa à la femme du Vittoria et à son fils mort, jeté à l'eau au milieu de nulle part. Alors, lorsqu'un jeune homme à lunettes lui demanda s'il y avait du travail chez lui, il répondit en articulant chaque mot et en répétant « Non, pas de travail du tout. » Cette réponse provoqua une bronca de désappointement. Le chauffeur, qui n'était pas si loin et n'avait rien perdu de la conversation, posa à son tour des questions. Salvatore Piracci entreprit de répondre à tous, comme cela lui semblait juste. Il décida d'être dur. Il parla de la misère des riches, de la vie d'esclaves qui attendait la plupart de ceux qui tentaient le voyage. Il parla de l'écœurement devant ces magasins immenses où tout peut s'acheter, mais où rien n'est vraiment nécessaire. Il parla de l'argent, de sa violence et de son règne. Les hommes l'écoutèrent d'abord avec surprise, puis avec mauvaise humeur. Il entendit autour de lui des injonctions lancées dans des langues qu'il ne comprenait pas. Étaient-ce des insultes ou des exhortations à se taire? Petit à petit, les questions se tarirent, les visages redevinrent durs. Personne ne voulait plus l'entendre parler. Ceux qui s'étaient retournés sur leur siège pour ne rien perdre de ses réponses lui tournèrent à nouveau le dos. Certains parlèrent entre eux, échangeant certainement leur avis sur lui. « Je sais ce qu'ils pensent », se dit Salvatore Piracci. « Ils m'en veulent de parler ainsi. » Il voyait dans leur regard qu'ils ne le croyaient pas et que rien de ce qu'il avait dit ne les empêcherait de continuer à caresser leur rêve d'Europe avec délice. Le silence revint. Le bruit du moteur seul régnait. Salvatore Piracci se jura de ne plus jamais répondre à aucune question, même à la première, celle qu'ils posaient tous. « D'où viens-tu ? » Même celle-là, il fallait la rejeter. Le silence. Il n'y avait plus que cela désormais. Il n'enverrait personne sur les routes. Il ne nourrirait le rêve d'émigration de personne. Il se tairait, traversant simplement des pays qui lui seraient étrangers. Lorsqu'ils arrivèrent à une sorte de minuscule hameau qui s'étalait le long de la route, le car s'arrêta à nouveau, et à nouveau, le chauffeur se leva et entreprit de passer dans les rangs. Une nouvelle fois, il s'arrêta devant Salvatore Piracci et lui fit le geste de l'argent. Le commandant sortit les deux billets qui lui restaient, mais au lieu de les prendre, le chauffeur lui fit comprendre que cela ne suffisait pas. Pour bien montrer qu'il n'avait rien d'autre, Salvatore Piracci retourna ses poches. Le geste n'apaisa nullement la fureur du chauffeur, qui lui montra ostensiblement la porte. Salvatore Piracci crut d'abord que c'était une menace brandie dans un but d'intimidation, mais il dut se rendre à l'évidence. Le chauffeur insistait pour qu'il sorte. Bientôt, des passagers, probablement pressés de repartir, lui firent des gestes de la main, le chassant comme on chasse une mouche ou un mauvais esprit. Il dut alors se résigner à descendre, sidéré de ce qui se produisait. Il ne savait où il était, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait pouvoir faire, le car était déjà en train de repartir. Salvatore Piracci resta là, incrédule, les bras ballants, incapable de dire ce qu'il venait réellement de se passer. Quelle était cette étrange façon de faire payer leur ticket aux voyageurs au fur et à mesure du trajet? Pourquoi le chauffeur ne lui avait-il pas dit dès le début qu'il n'avait pas assez? À moins qu'il n'y ait là une sorte de coutume. Le voyageur a le droit de monter dans le car et d'aller aussi loin qu'il peut. Plutôt que d'interdire l'accès à ceux qui n'ont pas assez, on leur permet de se rapprocher un peu plus de leur but. Il y avait là une certaine logique, mais Salvatore Piracci ne parvenait pas à exclure une autre possibilité. On l'avait fait descendre à cause des réponses qu'il avait données à toutes les questions des passagers. On lui avait fait payer ses descriptions sombres et ses mises en garde. On avait vu en lui un mauvais esprit et on avait préféré le laisser sur le bord de la route pour qu'il ne nuise pas davantage au sort des voyageurs. Le soir tombait. Salvatore Piracci regarda autour de lui. Qu'allait-il pouvoir faire ici? Il se sentait là et éreinté. S'il n'avait même plus sa place dans un pareil car, peut-être valait-il mieux abdiquer. Le hameau se composait de quelques baraquements pauvres et d'une sorte de terre-plein circulaire qui servait d'aire de repos aux véhicules de passage. Quelques vieilles voitures y stationnaient en attendant de repartir, à moins qu'elles ne soient venues ici pour y mourir. Deux camions s'y étaient également arrêtés. Salvatore Piracci s'approcha. À quelques dizaines de mètres des véhicules, des hommes étaient assis dans la poussière. Ils étaient une bonne trentaine installés en rond autour d'un feu. Ils avaient fait ici leur campement, attendant probablement le lendemain pour reprendre la route. Des couvertures étaient étendues, ça et là. Salvatore Piracci sentit le froid lui tomber sur les épaules. Il se rapprocha timidement du groupe pour profiter un peu de la chaleur du feu. Personne ne fit attention à lui. Le commandant s'approcha encore et prit place parmi la petite foule assise. Au centre du cercle, à quelques pas du bûcher, un grand homme, aux yeux brillants comme des torches, était en train de parler. Tous les regards convergeaient vers lui. On l'écoutait avec passion. Ce devait être un Malien ou un Ivoirien. Il parlait en français. Salvatore Piracci se concentra pour comprendre ce qu'il disait. Il parla tout d'abord de voiture, d'un voyage pénible et dangereux, puis plusieurs fois dans son récit, un mot revint qu'il prononça toujours avec une sorte d'emphase, « Masambalo ». « Qui ?» demanda un homme enfoui dans une couverture. « Le dieu des immigrés », répondit calmement l'Ivoirien. « Comment l'appelles-tu »« Masambalo ».« Amasala ou El Rastou », répondit-il. « Il a plusieurs noms. Il vit quelque part en Afrique terré dans un trou dont il ne sort jamais. « Comment sait-on à quoi il ressemble alors ?» demanda un jeune homme à la mine circonspecte. Et Salvatore Piracci se surprit à attendre la réponse avec une véritable curiosité. « Lui, on ne sait pas, » reprit le conteur. « Mais il a des esprits qui voyagent pour lui. On les appelle les ombres de Masambalo. Elles sillonnent le continent du Sénégal au Zaïre, de l'Algérie au Bénin. Elles peuvent revêtir différentes formes. Un enfant gardant quelques chèvres sur le bord d'une route, une vieille femme, un chauffeur de camion au regard étrange. Ces ombres ne disent rien. C'est à travers elles que Masambalo voit le monde. Il voit ce qu'elles regardent. Il entend ce qu'elles écoutent. À travers elles, il veille sur les centaines de milliers d'hommes qui ont quitté leur terre. Ces ombres sont toujours en route. On ne les voit qu'une fois, le temps d'une halte. Un voyage, le temps de leur demander son chemin ou une cigarette. Elles ne parlent pas, ne révèlent jamais qui elles sont. C'est au voyageur qui les croise de deviner leur identité, s'il le fait. Il doit s'approcher doucement, avec respect, et poser cette simple question. Masambalo. Si l'ombre acquiesce, alors il peut lui laisser un cadeau. L'ombre de Masambalo prend l'offrande et la conserve. C'est signe que le périple se passera bien, que le vieux Dieu veillera sur vous. Salvatore Piracci regarda tout autour de lui les visages ébahis de l'assemblée. Ces hommes buvaient les mots du conteur. Une lumière de soulagement coulait dans leurs yeux. Il existait donc quelque part un esprit pour veiller sur eux. Il ne leur serait peut-être pas donné de le rencontrer, mais le monde n'était pas vide. Des ombres couraient çà et là qui embrassaient leur cause. L'assistance écoutait avec émerveillement. Salvatore Piracci contemplait le visage de ces hommes dont les traits avaient été cardés par la misère et l'effort. Tous redevenaient enfants à l'évocation de ces esprits errants qu'ils rêvaient de rencontrer. Les hommes, dans la nuit, se racontaient des histoires pour se faire briller les yeux. Le vieux monde n'était pas mort. Il était encore des êtres secoués d'impatience qui souriaient aux rêves toujours recommencés du lointain bonheur que l'on va chercher. Une sorte de dégoût le submergea sans qu'il sût si c'était parce qu'il ne pouvait partager cet enthousiasme ou si c'était de constater qu'une telle crédulité puisse exister. Les deux sentiments se mêlaient en lui. Il ne pouvait éprouver que du malaise face à ces histoires que les hommes se racontent et qui les poussait sur des routes indécises. Il savait, lui, qu'à l'heure des tempêtes, il n'y a pas d'esprit pour veiller sur les malheureux. Tout cela était mensonge. Mais une autre douleur l'étreignait, paradoxale et antinomique avec la première, celle de ne pouvoir partager leur foi. Il aurait aimé y croire, lui aussi, que ses yeux brillent de la même joie aveugle, que ce mot simple de Masambalo, lui confère, comme à eux, une véritable force par simple évocation. Mais il était sec et usé. Plus rien ne pouvait ranimer son regard. Je ne fais plus partie des hommes, pensa-t-il. Et doucement, sans troubler la conversation qui continuait, il se leva et s'écarta du cercle, s'éloignant du feu et de sa chaleur, et laissant l'ombre l'avaler. Je ne vis plus pour rien, pensa Salvatore Pieracci en s'éloignant du petit groupe d'hommes. Les voix dans son dos continuaient à bercer les flammes. Il marchait sans but, d'un pas traînant, laissant simplement les phrases l'envahir tout entier. Plus personne n'est là pour se soucier de ce que je deviens. Je ne laisse ni parents, ni femmes, ni enfants. Une vie solitaire, décrochée de tout, qui roule sur elle-même jusqu'à l'épuisement. Ma disparition ne changera rien. Le grand ciel d'étoiles ne veille plus sur ma vie. Il s'arrêta et contempla tout autour de lui la nuit qui caressait les pierres de la route. Si je poursuis, la vie va être longue. Je suis tari comme une vieille outre sèche. Plus rien en moi qui me donne envie. Je regarde les hommes et ne les comprends pas. Il est temps de mourir. Me voilà arrivé au bout de ma course. Il pensa à tous ces cas où les corps abandonnent prématurément l'esprit, tous ces êtres qui disparaissent parce que le corps se rompt. Pour lui, c'était l'inverse. Son corps pouvait encore durer. Il n'était ni vieux ni malade, mais l'esprit était sec. Deux voies s'ouvraient alors à lui. Durer jusqu'à ce que le corps à son tour abdique, ou partir maintenant. Il ne ressentait aucune douleur, aucun cri de désespoir qu'il aurait eu du mal à contenir. La vie s'était simplement retirée de lui. Cela a commencé lorsque cette femme m'a abordé dans les ruelles du marché de Catane, pensa-t-il. C'est cela, au fond, qu'elle est venue me dire, qu'il était temps de me mettre en route pour trouver ma mort. Depuis la femme du Vittoria, je n'ai fait que mourir progressivement. Il a fallu que je traverse la mer et vienne ici. Il a fallu que je quitte tout ce que j'étais. Et maintenant, je suis au point où je ne peux plus rien abandonner. C'est la dernière marche, la toute dernière. Il faut juste accepter de disparaître. Je vais me fondre dans l'ombre. Je vais poser à terre mes fatigues. Il pensa alors à l'arme qu'il avait donnée jadis à cette femme. Si je l'avais sur moi à l'heure qu'il est, tout serait plus facile. La détonation ferait sursauter les étoiles, puis plus rien. Mais il n'avait rien, ni pistolet, ni même un couteau. Il marcha vers les masses endormies des deux camions à l'arrêt. Il les longea sans faire de bruit jusqu'à atteindre l'arrière des véhicules. Là, il se mit à genoux et entreprit d'extraire un des deux lourds bidons d'essence accrochés au ventre du camion comme des mamelles d'aluminium. Le bidon tomba à terre avec un bruit sourd de métal. Lorsqu'il ouvrit le bouchon, l'odeur du combustible chassa le parfum tranquille de la nuit. Il ne pensait plus à rien. Une torche, un jaillissement de lumière, puis le néant. C'est cela qui adviendrait. Il se versa de l'essence sur les jambes, le torse et les cheveux. L'odeur puissante faillit le faire tourner de l'œil. Il était maintenant assis à même le sol, jambes ouvertes, tête basse. Plus personne ne se souciait de lui. Des gouttes d'essence dégoulinaient de ses habits détrempés. Il était une flaque qui ne tarderait pas à prendre feu. Il respira profondément pour laisser entrer en lui toute cette dernière nuit. Il était loin du monde et n'avait plus la force même de se signer. Il entendit encore au loin les éclats de voix du petit groupe d'hommes qui se serraient contre le feu. Ils étaient à une dizaine de mètres à peine dans son dos, mais si loin que cette rumeur lui sembla étrange. « Il en est encore pour vivre, » pensa-t-il. « Ceux-là parlent, ont froid, se demandent ce que demain sera. Ils n'ont rien, sont plus pauvres que ce que j'étais durant toute ma vie, mais ils tiennent. Et partout sur le continent, il en est, comme eux, qui luttent avec la poussière et la faim. Il est juste que je cède ma place. » Il chercha alors dans sa poche de quoi embraser l'essence qui le recouvrait. Sa main tâta sa chemise, puis son pantalon. Il n'avait rien. Ni briquet, ni allumette. Une vague de désespoir et de dégoût lui souleva le cœur. Tout cela était ridicule. Il n'avait même pas de quoi achever son geste. Il aurait pu en rire si cela n'avait pas été tragique. S'il avait eu son arme, tout aurait été si simple. Il se sentait englué dans une laideur qui le révoltait. « Il faut que je boive l'amertume jusqu'à la lit », pensa-t-il. Rester ici à attendre que le jour se lève et qu'on le trouve tout puant d'essence, subir à nouveau les questions, la curiosité des hommes, devoir à nouveau se débattre, cela l'épuisait d'avance. Il chercha désespérément un autre moyen d'en finir, mais n'en trouva pas. C'est alors qu'il entendit des bruits, de pas dans son dos, quelqu'un s'approchait. Il se retourna lentement, espérant que l'intrus ne l'apercevrait pas, mais il sursauta en voyant qu'un homme se tenait à quelques pas de lui et le fixait avec interrogation. L'homme ne disait rien, essayant probablement de comprendre ce qui se jouait devant lui. Il regardait le bidon renversé, la flaque d'essence. La terreur naissait doucement dans ses yeux. Salvatore Piracci sentit qu'il était sur le point de crier, de donner l'alarme, d'appeler à l'aide. Il lui fit alors un geste doux de la main pour lui demander de se taire. Puis, en le regardant droit dans les yeux, il lui demanda s'il avait des allumettes. Lorsque l'homme comprit, il eut un geste de recul. Le commandant essaya de le retenir pour qu'il ne retourne pas au campement. Il tomba à genoux et, en levant les yeux sur l'inconnu, il réitéra sa demande. « Je vous en prie, » dit-il d'une voix assurée et profonde, « je vous en prie. » L'inconnu vit qu'il avait affaire à un homme calme, que ce n'était pas un démon. Il perçut dans sa voix une profonde détermination, mais contrairement à ce qu'espérait Salvatore Piracci, cela le terrifia encore davantage. Il dévisageait maintenant le commandant comme s'il s'agissait d'un monstre. Salvatore Piracci comprit à ce regard qu'il ne lui donnerait pas ce qu'il demandait. Il pensa un temps qu'il pourrait se ruer sur lui pour l'obtenir de force. Mais cela lui faisait horreur. La faim et l'odeur puissante de l'essence tout autour de lui lui faisaient tourner la tête. Il sentait qu'il allait perdre connaissance d'épuisement et de renoncement. Sa vue se brouilla, son champ de vision rétrécissait. Un bourdonnement croissant lui paralysait l'esprit. Il eut le temps d'entendre des cris lointains, ceux peut-être que poussait l'intrus pour appeler à lui les autres hommes, et de sentir qu'il tombait. Il sentit encore qu'un homme retenait sa chute, puis il s'évanouit.